Aujourd'hui, on n'a plus des organisations syndicales qui véritablement s'affichent comme étant en capacité de réfléchir en dehors de l'ordre libéral, en dehors de la société telle qu'elle est. Et n'y parvenant plus, finalement, ce qu'elles essaient, ces organisations syndicales, d'obtenir, c'est une espèce d'association au pilotage de la société telle qu'elle est. Une espèce d'association, d'affiliation aux institutions et d'association à l'organisation du monde tel qu'il est.
Bonjour, Stéphane Sirot, historien enseignant à l'Université de Cergy-Pontoise. Et dans le cadre des conférences de l'Institut d'histoire sociale UDCGT 44, intervenu à Nantes sur le thème « Dialogue social et démocratie sociale depuis 1945, une perspective historique ».
Sauf que le monde tel qu'il est aujourd'hui, et c'est ça qui pose bien sûr problème aux organisations syndicales, c'est que le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est un monde dans lequel, on le voit bien, la précarisation s'est installée, un monde dans lequel les droits sociaux se délitent petit à petit, un monde qui est de plus en plus dur pour le monde du travail, et pour la jeunesse aussi, donc un monde qui nécessite au contraire, je dirais, plus aujourd'hui que jamais, d'arriver à imaginer précisément des utopies qui permettent d'en sortir. Et là, il y a un poids très lourd, un handicap terrible, qui explique sans doute en partie, dans la société française, d'une part, la raison pour laquelle il y a un désengagement et une désaffection vis-à-vis des partis politiques traditionnels, mais il y a aussi une désaffection, un désengagement vis-à-vis des contre-pouvoirs traditionnels que sont en particulier les organisations syndicales, qui n'arrivent plus à satisfaire, je pense, certaines aspirations qui existent, même si elles ne sont pas forcément formalisées et si elles sont très diffuses, mais c'est justement aux organisations constituées de les rendre plus formelles et moins diffuses. Donc toute cette population, tout ce monde du travail qui n'arrive pas à trouver des organisations politiques ou syndicales qui traduisent leur volonté de changement, c'est quelque chose d'assez terrible et qui donne des résultats catastrophiques.
Quand vous parlez d'organisations syndicales, ce sont les plus importantes en nombre d'adhérents, parce qu'il en existe qui contestent le système.
Celles qui contestent le système sont ultra minoritaires et ne pèsent pas réellement dans le champ des relations sociales. Il y a eu longtemps une organisation syndicale majoritaire qui s'appelait la CGT, qui portait ces perspectives-là. Alors bien évidemment, il y a une difficulté aussi qui existe, qui est la suivante, qui je pense participe du recentrage du syndicalisme. Cette idée selon laquelle, au fond, il n'y a guère de choix et en quelque sorte, il y a peut-être deux alternatives. La première, soit de survivre dans le système tel qu'il existe, de survivre au sein de l'ordre dominant, qui a, il faut le dire quand même, réussi à largement imposer ses manières de voir aujourd'hui. Donc survivre au sein de cet ordre dominant ou être condamné en quelque sorte à être une espèce de tribu isolée hein, qui va certes camper sur ses modes traditionnels de contestation mais qui ne va pas réussir à être intégré au système de relations sociales et qui va rester marginalisé au sein de la société. Donc le choix est extrêmement compliqué pour des organisations syndicales, en particulier comme la CGT, des organisations syndicales qui restent, malgré tout, jusqu'aux prochaines mesures d'audience des syndicats, qui restent la première centrale française, la CGT. Il lui est très difficile de trancher entre ces deux lignes-là, parce que le congrès qui se prépare actuellement de la CGT, qui va avoir lieu au mois d'avril, il peut se résumer à ces deux alternatives que je viens de décrire. Donc c'est très difficile de trancher entre les deux, on le voit bien, c'est une des raisons du malaise qui existe aujourd'hui, me semble-t-il, dans la CGT, parce que comment arriver à trouver une espèce de juste milieu entre donc, ces capacités d'exister à l'extérieur du système dominant, en portant une utopie, un projet de société qui soit autre, et en même temps ne pas se retrouver totalement marginalisé et totalement exclu de ce système dominant qui fait que malgré tout, les organisations syndicales, si elles y sont intégrées, participent au système de relations sociales. Alors que si elles restent à l'écart de ce système, d'une certaine manière, elles regardent les trains passer. Donc c'est extrêmement difficile de trouver un équilibre entre ce qu'un historien que j'apprécie en tant qu'historien, qui est Pierre Rosanvallon, appelle la fonction syndicale d'agence sociale, c'est-à-dire c'est en quelque sorte les fonctions institutionnelles du syndicalisme, et la fonction de mouvement social du mouvement syndical, c'est-à-dire sa capacité à créer de la contestation. Et toute l'histoire du syndicalisme, je dirais, a été orientée par cette problématique-là. quelle doit être la dose d'agence sociale, c'est-à-dire quelle doit être la dose de participation des contre-pouvoirs au système dominant, et quelle doit être la dose de mouvement social, c'est-à-dire la dose de contestation de ce système dominant. Et il a toujours été difficile pour les contre-pouvoirs et pour les syndicats de trouver un équilibre entre ces deux tendances-là. Il y a toujours eu, je dirais, un moment où l'une ou l'autre l'a emporté, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et en partie pendant les Trente Glorieuses pour certaines organisations. C'est la fonction de mouvement social qui l'emportait, très largement. La fonction donc de fabrique de la contestation, de la revendication, du conflit. Et puis, à partir surtout des années 70-80, c'est plutôt la fonction d'agence sociale qui s'est imposée, au détriment de plus en plus de la fonction de mouvement social, mais qui est peut-être allée aujourd'hui jusqu'à des extrémités qui devraient poser question aux organisations syndicales, parce que dès lors que la fonction institutionnelle d'agence sociale devient hypertrophiée, il y a un lien qui se distend avec la société, avec le monde du travail, avec la capacité de contestation que sont censées porter les organisations syndicales. Elles sont censées aussi capter une certaine forme de malaise et de mécontentement, je dirais, dont il vaut mieux que ce soit elles qui le captent et qui le portent, plutôt que des organisations politiques, qui sont des organisations qui ne défendent en rien les enjeux du monde du travail, qui ne défendent pas, je dirais, le peuple, pour faire simple, mais qui arrivent à capter ce mécontentement-là, parce que, justement, ceux qui sont censés naturellement le capter n'y arrivent plus. Bien sûr, il y a une attitude, effectivement, qui, je dirais, générale dans la société, une attitude qui est de plus en plus consommatrice, notamment vis-à-vis des organisations syndicales, et qui touche, je dirais, plus particulièrement les jeunes qui n'adhèrent quasiment plus aux organisations syndicales. Et ça me paraît d'ailleurs être un enjeu majeur des syndicats dans les 10 ou 20 prochaines années. Parce que quand on regarde la moyenne d'âge des délégués aux congrès syndicaux, hein, il y a des études qui ont été faites là-dessus, elle approche de la cinquantaine. Hein, c'est un homme, en gros, hein, la majorité des élus syndicaux, des représentants syndicaux, de ceux qui siègent au congrès syndicaux, c'est des hommes qui ont entre 45 et 50 ans, voilà, et qui sont en CDI. Donc ça veut dire que les organisations syndicales ne reflètent plus tellement d'ailleurs la sociologie du monde du travail, ça c'est encore un autre problème. Mais il est vrai qu'il y a toute une frange du salariat qui est en attente de services. Or, le syndicalisme français, d'ailleurs, n'est pas un syndicalisme qui s'est construit sur un syndicalisme de service. C'est un syndicalisme qui s'est construit sur un syndicalisme d'engagement, contrairement aux syndicats voisins. Mais vous disiez, est-ce que le salariat n'a pas été remplacé par le consommateur ? J'allais dire, est-ce que le salariat lui-même n'est pas en train tout bonnement d'être éteint ? Je dis ça parce que, d'une part, le salariat au singulier n'existe plus, on a des salariats, on est aujourd'hui dans un monde où il n'y a jamais eu autant de conditions de travail différentes. On a une atomisation généralisée du monde du travail qui ne peut que s'accentuer. Et puis par ailleurs, le salariat reste bien sûr l'élément dominant du monde du travail, mais il y a quelque chose qu'on voit dans toutes les sociétés occidentales, c'est se développer le travail indépendant. Alors, sous des formes qui peuvent être chez nous, par exemple, l'auto-entrepreneuriat, tout ça se développe partout. Et là, les syndicats sont aussi face à un autre défi qui est celui, je dirais, de capter non seulement les salariés, mais de capter le monde du travail dans son ensemble. Parce qu'on se dirige vers des sociétés occidentales où, entre aujourd'hui 8 et 15% du monde du travail, est constitué de ces nouveaux statuts, type auto-entrepreneuriat, qui d'ailleurs souvent sont du salariat déguisé. Mais en tous les cas, c'est un public qui échappe aux organisations syndicales, parce que les organisations syndicales sont devenues effectivement, je dirais, des organisations de salariés. Or, à l'origine, d'ailleurs, quand on regarde les mots d'ordre ou les textes qui fondent le syndicalisme se veut le rassembleur du monde du travail dans son ensemble. Donc il y a un travail aussi à faire pour les organisations syndicales, qui consiste non seulement à capter les jeunes qui effectivement zappent de plus en plus et ont une attitude de plus en plus consommatrice, mais arriver aussi à capter non seulement ces jeunes salariés, ces jeunes précaires, ce qui est très difficile bien sûr, mais à capter aussi ou à s'intéresser aussi à ces travailleurs individualisés, que sont ces travailleurs non salariés et qui vont se compter dans nos sociétés par millions bientôt. Et il faut faire attention parce que d'une société où dans l'après-guerre, dans la pré-seconde guerre mondiale, on avait en quelque sorte réussi à constituer ce qu'un sociologue qui s'appelle Robert Castel avait appelé des sociétés salariales, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles, bon, plus ou moins, l'ensemble des salariés disposaient de conditions relativement communes, des sociétés dans lesquelles la condition de salarié permettait d'ouvrir toute une série de droits sociaux. Tout ça existait jusqu'aux années 80. Pour nous diriger plutôt vers une société qu'il appelait d'ailleurs, toujours Robert Castel, une société du précariat, c'est-à-dire une société dans laquelle se déconstruisent ces solidarités collectives pour laisser la place à un salariat de plus en plus éclaté et également un monde du travail qui lui-même est de plus en plus éclaté, composé de salariés, mais composé aussi, comme je le disais, de plus en plus de travailleurs indépendants, de travailleurs individualisés, ce qu'on appelle communément aujourd'hui l'ubérisation de l'économie. Ça, c'est aussi, je pense, un autre défi qui s'est surajouté à tous ceux qui existaient déjà pour les organisations syndicales.
J'allais vous faire cette remarque sur le salarié ou les personnes qui participent à cette économie collaborative. C'est le complément de salaire, et parfois c'est pas négligeable, mais sans s'en rendre compte, les dégâts que ça peut faire.
Oui, mais on place aujourd'hui les individus dans une situation où ils peuvent difficilement choisir de faire autrement. Je dirais que le capitalisme, qui, pour faire simple, était fondé sur un système d'exploitation de l'homme par l'homme, est en train de se diriger vers une espèce de... Ça serait peut-être le stade supérieur du capitalisme, vers une espèce de l'auto-exploitation de l'homme par lui-même. Parce qu'au fond, que ce soit souvent l'auto-entrepreneuriat ou ceux qui travaillent pour Uber ou d'autres sociétés du même ordre, au fond, c'est de l'auto-exploitation. C'est-à-dire qu'en réalité, chaque individu crée son propre salaire, paye sa propre protection sociale, qui d'ailleurs est de plus en plus ténue, et l'entreprise elle-même ne récolte plus que le profit, et n'a plus besoin de prendre en charge tout ce qui consiste à organiser des systèmes de protection collective. Donc on est effectivement, je pense, c'est ça le danger qui est devenu imminent, d'avoir une société dans laquelle, au fond, chaque individu serait, dans sa condition sociale, totalement différent du voisin. Ce qui fait qu'à partir de là, comment arriver à convaincre quelqu'un d'adhérer à une organisation collective, et comment arriver à créer des synergies qui permettraient, en quelque sorte, de rassembler, de créer des mouvements sociaux qui ont souvent permis dans notre histoire des progrès. On voit bien qu'il y a aussi certainement derrière tout ça une stratégie qui consiste à faire en sorte que précisément chaque individu considère qu'il ressemble pas à son voisin, ne ressemblant pas, pardon, à son voisin, ne va pas s'associer à lui pour contester quoi que ce soit. On est entré dans une espèce de processus qui veut que, au fond, tout est organisé pour, j'ai du mal à penser que ce n'est pas volontaire, mais tout est organisé pour tuer dans l'œuf toute forme de processus de construction d'une contestation quelconque du système en place. Ceux qui pourraient les faire n'en veulent pas, tout simplement. Parce qu'on oublie souvent, enfin, voilà, c'est un peu comme je le disais au début, dialogue social, démocratie sociale, on en parle comme si c'était des choses qui étaient tombées du ciel. La société dans laquelle on est, on a l'impression que c'est pareil, c'est une donnée qui est devenue immuable et contre laquelle on ne peut rien. Ce n'est pas vrai. On parle à longueur de temps de mondialisation, mais précisément, ce qu'on appelle la mondialisation, puisqu'au fond, ces systèmes qu'on vient de décrire, cette ubérisation de l'économie, elle est aussi l'enfant de cette mondialisation. On oublie souvent que la mondialisation, c'est quelque chose qui a été décidé par les États eux-mêmes. La mondialisation n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, qui est arrivé comme ça de je ne sais où, de je ne sais quelle planète, et qui se serait imposé aux hommes. C'est une construction politique et économique, mais c'est une construction qui a été voulue par les responsables des États qui l'ont construite. Ce qui peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que ceux qui l'ont voulu se reconnaissaient dans, finalement, étaient des relais, des bons relais du système capitaliste. Ceux qui ont voulu cela, en quelque sorte, se sont désarmés eux-mêmes, c'est-à-dire qu'au travers de ces systèmes dits de mondialisation, fabriqués par les États ont accepté de se désarmer, et de se désarmer à tel point qu'aujourd'hui, ils se considèrent comme pieds et poings liés du système économique, et ils considèrent qu'ils n'ont plus aucune possibilité d'agir au fond sur le réel. en tout cas sur le réel économique et social. Et on le voit bien dans la vie politique. Qu'est-ce qui fait le clivage politique aujourd'hui dans nos sociétés ? Ce n'est plus les questions économiques et les questions sociales. Il y a une entente très large sur l'essentiel là-dessus. C'est des questions de société.
Stéphane Sirot est avec la complicité de l'Institut d'Histoire Sociale UDCGT 44, l'invité du magazine.
C'est des questions de société, que certains aiment bien appeler sociétales, même si pour ma part je déteste ce terme-là. Mais c'est ça qui fait clivage. Aujourd'hui, quand la gauche et la droite essaient de démontrer avec difficulté qu'ils ne sont pas pareils, ça va être sur le mariage homosexuel, ça va être sur ces choses-là. Mais ça ne sera plus sur les questions économiques, et ça sera de moins en moins aussi sur les questions sociales. Parce qu'il y a un consensus très large sur ce monde qu'on a construit depuis 30 ou 40 ans avec la chute du communisme. Parce que je pense aussi que d'ailleurs, la chute du monde soviétique, alors je ne défends pas les démocratie populaire, le propos n'est pas là, mais je dirais que la chute du monde soviétique a en quelque sorte délivré le système capitaliste d'une obligation de mieux-disant. L'existence jusqu'aux années 80 d'un système concurrent face au système capitaliste faisait que le système capitaliste se sentait lui-même en nécessité de faire la démonstration qu'il était meilleur en tout, c'est-à-dire qu'il était meilleur y compris pour le monde du travail, y compris pour les salariés, qui leur apportaient plus, qui leur apportaient du mieux-être, des protections, beaucoup plus, et qu'on vivait mieux chez lui qu'on ne vivait chez le voisin. Et lorsque tout ce monde-là a implosé, lorsque ces systèmes de l'Est ont disparu, cette espèce d'obligation de mieux-disant que pouvait avoir le système capitaliste est tombée avec. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on voit que ce qu'on a appelé le néolibéralisme, Reagan, Thatcher, etc., le système mondialisé, tout ça se construit et se parachève précisément à partir du moment où tombent les systèmes communistes. C'est une espèce de vaste libération qui permet enfin, je dirais, hein, enfin, si je reprends le vocabulaire de ceux qui y pensaient déjà sans encore l'avoir fait, de pouvoir enfin construire le monde tel qu'on le voulait, c'est-à-dire ce monde de mise en concurrence généralisée des individus, des systèmes, enfin des États, etc. Et qui permet toujours d'avoir cet argument qui fait que, dès lors que vous estimez que vous devez avoir de meilleures conditions de travail, on va vous répondre, ben oui, mais c'est pas possible parce que compétitivité, le voisin il fait mieux que nous, donc on est obligé de s'aligner, etc. Voilà, donc c'est une espèce de système sans fin, dès lors que personne, dès lors qu'aucune structure, aucune organisation, au travers de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire au travers y compris de la réflexion utopique, imagine autre chose. Et aussi, tant qu'on ne se tournera pas peut-être suffisamment chez nous, vers les pays du Sud, vers les pays en développement, parce que je pense qu'il peut y avoir un espoir. On est quand même, c'est vrai, dans une situation qui est très difficile. En tout cas, il y a un espoir qui peut venir de là, parce que s'il doit y avoir un rééquilibrage peut-être du monde que l'on connaît aujourd'hui, y compris chez nous, si on peut espérer qu'il y aura un rééquilibrage social, un rééquilibrage politique, dans un sens plus égalitariste, dans un sens de solidarité, c'est quelque chose qui peut venir précisément de ces mondes du travail, des pays émergents, des pays du Sud, qui sont en train de s'organiser, qui parfois même sont en train de protester, et qui par leur protestation et leur organisation pourraient eux-mêmes peser de telle manière à ce que ce système mondialisé se trouve contraint d'abandonner ces stratégies permanentes de dumping social. Donc je pense aussi que ceux qui, chez nous, dans nos pays occidentaux, souhaitent encore un monde plus juste, un monde où l'égalité soit mieux assurée, ceux-là ont tout intérêt à les voir et peut-être à accompagner, à aider, je ne sais pas, mais en tous les cas à faire quelque chose qui permette d'avoir une espèce de, face à ce système économique mondialisé, une espèce de contre-pouvoir mondialisé lui aussi, et qui pourrait peut-être être en capacité d'opérer ce rééquilibrage. Et ça ne me paraît pas quelque chose de tout à fait utopique. Le monde économique s'est bien mondialisé, le système politique s'est bien mondialisé lui aussi globalement. On ne voit pas pourquoi ce ne serait pas possible de faire la même chose de l'autre côté de la barricade.
On peut très bien niveler par le haut.
On peut niveler par le haut, effectivement. Parce que ça aussi, ça fait partie des transformations conceptuelles. Hein. Depuis les années 80, on a assisté à tout un tas de transformations du vocabulaire. Parce qu'il est évident que quand on veut imposer un monde, il faut d'abord imposer les mots qui vont avec. Donc quand on a voulu imposer un système social, un système de relations sociales plus pacifié et moins conflictuel, ben on a inventé dialogue social, partenariat social, etc. Donc on a transformé aussi le vocabulaire dans bien d'autres domaines. Par exemple, le mot réforme qu'on entend si souvent il n'y a encore pas si longtemps que ça, le mot réforme, vous l'avez dit, enfin, était associé de manière systématique à l'idée de progrès. Aujourd'hui, on associe plutôt le mot réforme à l'idée de sacrifice nécessaire. Aujourd'hui, on associe plutôt le mot réforme à l'idée de sacrifice nécessaire. On a toute une série de... si on prend le cas français pour revenir chez nous, quand on parle de sécurisation du travail, de quoi parle-t-on ? Ben, on parle plutôt d'accords ou de lois qui facilitent la possibilité de débaucher les individus plutôt que de les protéger. Donc effectivement, si on veut de fait imaginer un autre monde, ça passe par imaginer aussi un autre vocabulaire, justement en réaction à celui que le système dominant a réussi à imposer dans la tête des individus.
Un historien qui analyse le passé, qui vit dans le présent, est-ce que c'est pertinent de lui demander comment lui se projette dans l'avenir ?
Oui, parce que même si je fais de l'histoire, justement, je fais de l'histoire en considérant que l'histoire sert, alors c'est, je dirais, c'est banal de le dire, sert aussi à comprendre ce qu'on est en train de vivre et peut-être aussi à envisager ce qu'on pourrait faire à l'avenir. Ce que je dirais de ce point de vue-là, c'est que dans la position qui est la mienne, j'essaie justement de décortiquer au mieux ce monde qu'on nous a imposé depuis 3 ou 4 décennies, déjà de faire cela, de le déconstruire, de comprendre les ressorts qu'il y a derrière, le pourquoi du comment, tout simplement, pour précisément, une fois avoir déconstruit les évolutions qui me paraissent pour ma part, en tant que citoyen, néfaste des 3 ou 4 dernières décennies, après les avoir déconstruites, précisément essayer de repartir sur des valeurs qui ne soient pas forcément nouvelles, mais en tout cas sur des valeurs qui permettent d'envisager une autre forme de société. Ça ne veut pas dire, là encore, revenir à des conceptions qui étaient celles de 1945 ou d'avant, la question n'est pas là, mais en tout cas être en capacité de reformuler des formes d'utopie, voilà, de reformuler des projets qui permettent de sortir de ce que nous offre aujourd'hui le système d'ordre dominant qui, pour ma part, me paraît pas très satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire, et pas satisfaisant non plus pour les générations à venir, et de recréer l'utopie. Voilà. Moi, si j'ai quelque chose à dire de ce point de vue-là, ou quelque chose à faire, ce serait précisément, dans mon travail d'historien, en faisant comprendre aux acteurs d'aujourd'hui ce qu'on a réussi à leur imposer, ou à leur faire penser, ou à les obliger à penser, leur faire comprendre cela pour qu'ils s'en débarrassent et qu'ils soient en capacité précisément d'imaginer, je dirais, une société hors sol. Voilà, ce que j'appelle une société hors sol, c'est-à-dire d'être en capacité d'imaginer une société qui ne soit pas une société simplement où, de manière cosmétique, on essaierait de poser des rustines sur le système d'ordre dominant tel qu'il est, parce qu'il me semble que ce système d'ordre dominant tel qu'il est arrivé aujourd'hui à un point tel que, sans imaginer autre chose, je ne vois pas comment on pourrait reconstruire des sociétés plus solidaires. Le travail est énorme, mais il me semble que le chemin peut difficilement être autre chose, sauf à trouver qu'il serait naturel ou bénéfique d'avoir des sociétés dans lesquelles les individus, au fond, je vais pas faire mon chrétien, mais plutôt que de s'aimer les uns les autres, se détesteraient les uns les autres. Voilà, c'est un peu ces sociétés qu'on a construites ces dernières décennies, et je pense que c'est ces sociétés-là qu'il faut précisément déconstruire.
Merci à Stéphane Sirot, historien, enseignant à l'université de Cergy-Pontoise, pour sa libre participation à cette émission réalisée avec la complicité de l'Institut d'Histoire Sociale UDCGT 44.